ce shiur dédié pour la question de l'âme de Yosef Ben Sarah des enfants de Bracha. Alors, on me pose la question ici. Quand on vient à l'Yeshiva, les premiers mois, on a un amour extraordinaire de Dieu, de la Torah, c'est des lumières spirituelles très grandes qui se réveillent. Puis d'un moment, quelque part, on sent que Dieu nous lâche et on revient à un atterrissage, pas un scratch, mais disons, on était très sur un petit nuage, on revient sur Terre. Pourquoi ? Bon, alors, il est vrai d'abord que souvent dans la tshuva, ce phénomène se produit, car la personne, faire tshuva, c'est une chose qui est presque anormale. Comme c'est écrit au début de le plus grand livre qui a été écrit sur la tshuva, s'appelle « Shaare Tshuva, les portails de la tshuva » de Rabbeinu Yonah, un des grands rabbins du Moyen-Âge. Bon, un livre très dur. Je ne recommande pas trop la lecture pour les novices. Il met la barre très très haut, il donne 20 conditions pour la tshuva, la tristesse, le désespoir. Tu lis ça, d'accord. Donc, molo. En tout cas, il écrit là-bas, dans le premier chapitre, que de façon naturelle, on ne peut pas faire tshuva. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre que les actions que nous faisons nous enferment dans le même type d'action. Quelqu'un fait une mitzvah. C'est marqué dans la Gemara, schar mitzvah, mitzvah. Le mérite d'une mitzvah, c'est faire une autre mitzvah. On t'ouvre, quand tu fais une mitzvah, tu attires sur toi un souffle, c'est un ruach en hébreu, c'est un souffle spirituel qui te pousse à refaire encore une mitzvah. Schar avera, avera, le mérite d'une avera, c'est aussi une avéra. Avéra, c'est un péché. Le mérite d'un péché, la récompense d'un péché, c'est l'envie de refaire un péché. Quand on fait un péché, on tire sur soi un souffle qui nous donne envie de refaire ce péché. Plus la mitzvah est grande, plus le souffle qu'on attire sur nous est grand. Plus l'avéra est grande, plus le souffle qu'on attire sur nous, il est grand. Les péchés très graves. Par exemple, aujourd'hui, le monde est, on peut dire, proche de la destruction totale, d'accord, à cause d'Internet, les films X. C'est un truc qui ravage le monde. Ravage. C'est un péché très grave. Du moment que quelqu'un il a vu une fois un film pareil, il est poussé, il a un souffle en lui. Il sait que c'est pas bien, il n'a pas envie. Des fois, il en pleure. Mais il a un souffle terrible qui le pousse. Un souffle, comme son nom l'indique, ça souffle. D'accord ? Tu as un petit souffle de 20 km à l'heure, puis tu en as un de 220 km à l'heure. D'accord ? 220 km à l'heure, il faut résister. Si on résiste, on répare. On répare. Et je dirais même plus que cela. S'il s'agit d'une résistance au niveau sexuel, il est marqué dans la Gemara traité Kiddushin, page 39b, qu'il n'y a pas de mérite plus grand que la résistance à une pulsion sexuelle. Interdite. D'accord ? Rachid dit, il n'y a pas de mérite plus grand que cela dans toute la Torah. C'est le plus grand mitzvah qu'on puisse faire. Donc non seulement, quand tu résistes, tu t'engages pas dans le plus mal qu'il aurait pu y avoir, parce que plus tu en veux, plus tu en as, plus tu en veux. Mais en plus, maintenant, tu attires sur toi un souffle de lumière extraordinaire. Un autre endroit dans la Gemara, l'histoire d'un rabbin qui avait au-dessus de lui une colonne de lumière. Bon, c'est pas nous qui voyons ces choses-là, mais les tzadikim, ils voient sur les gens combien ils ont de lumière spirituelle. D'accord ? Il y en a, des fois, ils voient quelqu'un, ils sont épatés. D'accord ? Une colonne de lumière. Qu'est-ce qu'il avait ? Lui, il était amoureux d'une femme mariée. Le Ralechem, d'accord, Dieu nous en préserve. Mais amoureux, le type, ça va, il prend les cachets, d'accord, psychiatriquement, difficile pour lui de supporter. Et un beau jour, cette femme mariée vient le voir, lui dit, écoutez, on est en situation financière très difficile. Est-ce que je peux vous demander un prêt ? Donnez-nous 10 000 euros et je vous les rends sur 10 mois. 10 000 euros sur 10 ans, d'accord ? Faites-nous cette gentillesse. Écoutez, je vous le donne, 10 000 euros maintenant. Mais, vous péchez avec moi. Mais. Qu'est-ce que je fais ? Bon, j'accepte. Elle accepte. Et lui dit, non. Non, ce ne sera pas ça. Et il refuse. Et il donne le prêt. Je ne sais pas s'il a donné la somme ou il a donné que le prêt. L'histoire ne le raconte pas, mais il a résisté. Et dès ce moment, il avait sur lui une colonne de lumière. Il aurait pu pécher. C'était son rêve, jour et nuit. comment je vais faire pour pouvoir une fois être avec cette femme? Elle vient lui dire, ok, c'est bon. Elle lui dit, lui dit non. Dès ce jour-là, il avait une lumière spirituelle. Aujourd'hui, c'est facile. Tous les jours, elle te dit, dans une petite boîte noire comme ça, vas-y. Dire non, mais c'est pas en vrai, c'est virtuel. La Gemara dans Yoma, elle cite les paroles de Salomon le roi, dans les proverbes, qui disent, il y a plus de jouissance de voir que de faire l'action. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Preuve en est que beaucoup de maris sont ennuyés par leurs femmes. C'est plus intéressant Internet. 30% des maris trompent leurs femmes avec Internet. C'est un truc terrible. Alors maintenant, le type, il a la tahava, il a la pulsion. Terrible, terrible, terrible. Il se retient. Et là, il a gagné beaucoup. Mais le problème, c'est que ça revient tous les jours. La meilleure chose à faire, c'est là, faut vraiment l'acte de bravoure. Et il y a un grand rabbin ici en Israël, le Rav Moshe Tzadka, qui a promis beaucoup de bénédictions celui qui veut cela. On prend la petite boîte comme ça et... Finito. Là, c'est fini. Il faut qu'elle vienne en vrai. Bon, c'est plus difficile de la voir celle qui est sur l'écran qu'en vrai. D'accord ? Qu'elle te retrouve ici à la yeshiva, c'est pas trop facile. Bien que l'Yetzera est fort. Donc, si quelqu'un ne se retient pas, ce qui se passe d'habitude, parce que le souffle est très fort, il pêche encore. Il pêche, et il a fait un péché encore plus grave. Donc, ce n'est pas un vent de 220, c'est un vent de 440. Et après, de 880, et après, bon, je ne sais pas si exponentiel, en tout cas. Quelque part, au bout d'un moment, ce type-là, il est perdu. Même s'il veut, il ne peut pas. C'est une addiction. Comme le type qui se shoot à l'héroïne, d'accord, il aurait bien arrêté, il ne peut pas. La coke, la drogue, tout, l'alcool, les filles, c'est une addiction, d'accord, c'est clair. Le Internet, c'est une addiction, c'est connu, les psychologues américains l'ont dit aujourd'hui. Une addiction, ça se soigne, c'est une thérapie. Alors, je rappelle ici sur Internet qu'il y a aujourd'hui un groupe de thérapie de personnes touchées par cette maladie-là. Ceux qui sont intéressés, ça s'appelle SA, d'accord, SA, sexuel anonyme. Ceux qui sont intéressés, qui m'écrivent, je leur donnerai les coordonnées de gens qui sont des bons juifs, qui, hélas, sont addictés et qui sont sortis. Ils ont des groupes de travail ensemble. Ils ont des résultats absolument très, très, très bons, très probants. Quoi qu'il en soit, si on ne fait pas ce travail-là, donc on s'enfonce. Naturellement, on ne peut pas sortir. Des fois, quelqu'un a des mérites. Ou un mérite qu'il a fait une mitzvah quand il était petit, une grande mitzvah. Ou un mérite de souffrance qu'il a eu dans son enfance. La souffrance, c'est un grand mérite en soi. Ou le mérite d'ancêtre. Et là, il y a un grand-père qui était un grand sadique. Ou une grand-mère, etc. Et dans le ciel, le grand-père, il prie à Dieu, il dit, pourquoi mon petit-fils, là, il est complètement dans la touma, dans l'impureté française, en train de s'enfoncer terriblement. Fais quelque chose, Dieu, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai beaucoup de mérite, que mon mérite revienne sur ce petit-fils. Ou un petit-fils. Pas toujours la prière est reçue, mais des fois oui. À un moment, Dieu fait un miracle extraordinaire. Il réveille l'âme de la personne. Et tout d'un coup, il se dit, je ne peux pas continuer comme ça. J'ai soif de spiritualité, j'ai soif d'Hachem, j'ai soif de Torah, je reviens. Maintenant, se tirer du carcan de ces souffles d'impureté qu'il a, naturellement, c'est impossible. Il faut qu'il y ait une aide surnaturelle. Et ça, c'est le mérite spécial qui fait que, et j'ignore quel est le mérite de la génération, parce qu'on voit que nos générations aujourd'hui, beaucoup font tchouva. C'est le mouvement normal, d'accord? Les gens idiots ne font pas tchouva, les gens normaux font tchouva, d'accord? C'est le mouvement normal. Alors, quand tu vois la société qui descend normalement, il faut bien à un moment se dire jusqu'à où on va descendre. À un moment, on dit halt, d'accord? Les gens normaux disent halt et font tchouva. Et on voit qu'il y a une aide spéciale du ciel énorme. J'ignore quel est ce mérite. J'imagine, je peux me tromper, c'est tout à fait personnel, que c'est le mérite de 6 millions de juifs morts dans la Shoah, qui dans le ciel disent on est mort dans une condition tragique. Dieu fait tchouva au peuple d'Israël. Fait faire tchouva au peuple d'Israël. Et Dieu amène maintenant un mérite énorme qui fait qu'effectivement, on voit. Quelqu'un m'a raconté dernièrement qu'il était à l'enterrement du Chazon Ish. Le Chazon Ish, c'était le plus grand rabbin d'Israël à l'époque. Je vous aime bien, il est décédé en 1954. Et tous les journaux ont parlé de cet enterrement extraordinaire. Il y a eu un monde, on n'a jamais vu autant de monde venir à un enterrement. Extraordinaire. Combien il y a eu ? 10 000. 10 000 personnes à l'enterrement du Chazon Ish. À l'époque, si je ne me trompe pas, il y avait en Israël au moins 600 000 juifs dans l'État d'Israël. Si plus, même presque 1 million, je pense, en 54. 1 million. Aujourd'hui, il y a 6 ou 7 millions de juifs en Israël. Alors, en termes d'Arvoïa Yosef, combien sont venus ? 1 million. 100 fois plus. Il y a peut-être entre les 7 et 10 fois plus de juifs en terre d'Israël, et il y a eu 100 fois plus de personnes qui sont venues à l'enterrement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le peuple d'Israël est en train de faire tchouva. Lorsqu'il y a eu la création de l'État d'Israël, il y avait 20 familles religieuses ici, 200 familles religieuses orthodoxes en Israël. Ben Gurion a dit, le président de l'État, il a dit à l'époque, dans 20 ans, il n'y aura plus aucun. Dans 20 ans, il n'y aura plus aucun religieux. Et c'était le programme politique de l'État. C'est un État socialiste, laïque, qui voulait qu'il n'ait pas de Torah. Aujourd'hui, le contraire. On voit qu'il y a un phénomène miraculeux qui a lieu, d'accord ? Que le peuple d'Israël fait tchouva. C'est anormal. C'est miraculeux. Maintenant, un miracle, c'est une chose qui est ponctuelle. Tu ne peux pas prendre quelqu'un, laisser en état de miraculé pendant toute sa vie. À un moment, il le prend, il le touche comme ça. Vraiment, c'est une baguette magique, d'accord ? Dieu fait un flux comme ça de lumière qui vient à la personne, tac, elle sort, elle est aidée. Elle est propulsée hors de l'impureté dans laquelle elle vivait, dans tout ce carcan de mal, et elle est propulsée maintenant à goûter au bon goût de Dieu. Elle se sent comme sur un nuage. Il n'y a rien de meilleur au monde. Elle se sent maintenant, d'un côté, c'est difficile, on change d'habitude, quand dira-t-on, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire, etc. Mais d'un côté, on sent des choses extraordinaires. Ça, c'est la période de miracle que Dieu nous sustente. C'est lui qui fait tout ça. Et quand tu es porté par Dieu, c'est agréable d'être dans la main de Dieu. Il n'y a rien d'ailleurs au monde. Mais combien de temps ? Le but, ce n'est pas que Dieu fasse le boulot. Nous, on doit le faire. Si Dieu me sort maintenant, alors c'est vrai que j'ai des efforts à faire, mais si je reste dans la main de Dieu sans cesse, pour finir, je viens au Lama bas, je dirais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais Dieu va te dire, c'est pas toi qui as fait, c'est moi qui t'ai fait, c'est moi qui te portais, mon cher ami. T'as rien fait. Zéro. Dieu ne veut pas qu'on arrive à au Lama bas avec zéro. Donc, il nous porte dans la partie où on peut faire autrement. Ce n'était pas lui qui nous portait miraculeusement, on n'aurait pas réussi à faire cela. Il nous sort d'où on est. Des fois, dans ton cas, cher ami, tu amènes à la yeshiva, tu laisses un nouveau monde, tu vois qu'on est à l'étude de la Torah, Yerushalayim, Israël, la ville sainte. C'est beau, c'est fantastique, c'est extraordinaire. Ok. Au bout d'un moment, on s'habitue. Première chose. Même les choses les plus belles. Tu manges un bon plat, d'accord ? 1, 2, 3, 4. Au bout d'un moment, dans ma jeunesse, on avait été une fois à un endroit, peu importe, et on avait donné de la glace, d'accord ? Bon, peu importe. On a donné de la glace à manger, d'accord ? À côté, il y avait un petit verre d'eau dans lequel on rinçait la petite cuillère. Pourquoi ? Parce que quand tu as dans le goût de la glace dans la bouche d'une petite cuillère, c'est encore la même chose. Quand tu rinces la petite cuillère dans l'eau, tu regoutes, c'est nouveau de nouveau. C'est comme si maintenant, c'est comme la première bouchée que tu manges. Et elle est bien meilleure. Je ne suis pas un grand fumeur, on m'a dit que la première tape, c'est la meilleure, d'accord ? Après, c'est pour finir la cigarette. Donc on veut recréer le goût du nouveau, du meilleur. Alors aussi en tchouva, ça existe. Alors combien de temps ? Combien de temps ? Un certain temps. 3 mois, 6 mois, au bout d'un moment, les choses se tassent et Dieu aussi nous lâche. Il ne nous lâche pas complètement, mais lentement, il voit que maintenant tu as suffisamment de force pour pouvoir te débrouiller tout seul, il veut que toi tu bosses. C'est-à-dire que maintenant, il faut bosser. De nouveau, le terrain revient, tu as de nouveau des pulsions négatives qui viennent, et la guerre, elle vient. Mais au moins, je t'ai montré la direction. Tu l'as goûté, tu as vu. Maintenant, vas-y, bosse. Et par tes propres forces, monte sur l'échelle.
Des pulsions, mais. Pourquoi vous appelez ça des pulsions ? C'est pas des pulsions, c'est.
Négative.
Ouais, mais c'est pas des pulsions, c'est. Des fois, c'est la flemme, non ? C'est pas une pulsion.
Ok, la flemme, c'est la pulsion des pulsions, monsieur, mon cher ami.
Une pulsion, c'est j'ai envie de faire quelque chose,
même si
j'ai pas envie
de faire. T'as une pulsion, ne pas avoir envie de faire une chose, ça veut dire avoir envie de ne pas faire. C'est une envie, c'est une très grande envie. Il y a 4 axes de pulsion chez l'homme. L'orgueil, la parlotte, les envies jouissantes, nourriture, femme, en gros, et la paresse. C'est les 4 axes de pulsion que nous avons qui correspondent aux 4 forces du mal, qui correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu. Tu as 4 lettres du nom de Dieu dans la sainteté, tu as le correspondant négatif au positif. Dans le positif, c'est Yudke Vavke, tu as le correspondant négatif. C'est 4 puissances de mal. D'accord ?
Elles ont des lettres, les 4.
Elles correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu, et chacune correspond à une autre lettre. Un temps, je savais, mais j'oubliais. je ne sais plus où retrouver ça, il faudrait peut-être que je cherche, mais je n'ai pas, le temps. Que quelqu'un, s'il voit devant lui Yudke Vavke clairement, c'est-à-dire qu'il est réparé. Et s'il voit une des quatre lettres pas très bien, d'habitude, les quatre lettres, on ne les voit pas bien, s'il y a une certaine lettre qui ne voit pas bien, c'est pour que dans ce point-là, il y a du travail encore à faire. Mais pas besoin de voir les lettres, d'accord ? Au niveau de l'orgueil, on est tous touchés. Au niveau de la parlotte, on est tous touchés. Au niveau de la paresse, on est tous touchés. Au niveau des envies, on est tous touchés. Là, il y a du boulot pour tout le monde, d'accord ? Dans tous les côtés, tout azimut. Pendant la période des 3-4 mois, alors, on est sustenté. Parce que Dieu voit qu'on ne pourra pas s'en sortir tout seul. Donc il nous aide. Après, il faut qu'on fasse le boulot tout seul. Notre but de venir sur terre n'est pas que Dieu fasse le boulot pour nous. Enfin, les anges. Un ange, voilà, il ne peut pas pécher, comme ça Dieu l'a créé, point barre. Ok, c'est un ange, mais il est appelé omed, il est appelé immobile. L'homme, il est appelé avançant. Il peut avancer, il peut aussi reculer. Il est libre, d'accord ? Libre arbitre. Donc à toi de travailler.
Comment enlever l'orgueil ?
Regarde, l'orgueil... C'est peut-être la chose la plus dure, la chose la plus dure. Les envies, on peut encore se raisonner. La paresse, on peut se raisonner. La parlotte aussi. L'orgueil, c'est quelque chose extrêmement intérieur à nous, qui provient à la base du fait qu'on a en nous une partie de Dieu. Il y a un verset qui dit « Hachem Gehout Lavesh »« Lavesh, Hachem, etc. » Hachem, Geout Lavesh. Dieu est habillé de Geout. Geout, c'est de fierté, d'orgueil. Pas que Dieu est orgueilleux, mais à lui revient les honneurs. Pas à nous. Maintenant, étant donné que nous sommes une partie de Dieu, on peut se tromper et croire qu'à nous aussi reviennent les honneurs. Quelqu'un a fait un acte louable. D'accord ? Psss ! Ah, t'es quelqu'un. Psss, colacabode, hein. Rugis un peu. Cet acte louable que tu as fait, c'est grâce à toi ? Non. Dieu t'a donné les forces pour les faire. Il t'a créé. Il t'a donné un esprit intelligent, il t'a donné une puissance. Quelqu'un, il a un don. Il chante bien. Ou c'est un grand sage d'Israël. Ou c'est un grand sportif. Ou il joue de la musique très très bien, très, très 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 agile. D'accord ? Alors, il a travaillé, c'est clair. Mais après tout, il est doué. Il a un don. Le don, comme son nom l'indique, ce n'est pas de lui, c'était donné. Par qui ? Par Dieu. À Dieu revient le kavod. Nous sommes des employés qui ont reçu des missions à faire sur Terre. Et par rapport à nos missions, on a des outils qui le permettent. Il ne faut surtout pas croire qu'à cause de ça, on est meilleur ou on est bon. On est bon, peut-être on est bon dans ce qu'on fait, très bien. Parce que Dieu m'a donné. Mais à moi revient quelque chose. Rien. Allez, vaille. Il faut prier que quand on va au Lamaba, on va nous dire avec les dons qu'on t'a donnés, c'est que ça que t'as fait ! Espèce de tordu ! T'aurais pu faire beaucoup plus ! Mais j'étais le top, le meilleur ! Ouais, mais t'en voulais beaucoup plus que ça quand même ! C'est bon, ça c'est un des moyens de baisser l'orgueil. Comme dit le Ramban Nachmanide a écrit une lettre à son fils, il dit « Toi, à quelqu'un qui est plus sage que toi, alors dis-toi que tu es moins que lui ». Quelqu'un qui est plus bête que toi, tu es plus sage que lui, dis-lui que tu es plus coupable que lui. Dis-toi que tu es plus coupable que lui. Parce que lui, il est bête, c'est pas de sa faute. Toi, tu es intelligent, tu aurais dû faire mieux. Maintenant, ça, c'est deux aspects que je te donne. D'abord, que les choses qu'on fait, ça ne revient pas à nous, l'honneur ne nous revient pas à nous. Deuxième chose, que Dieu va juger d'après les qualités de chacun. Et si tu vois quelqu'un qui est meilleur que toi, alors déjà, dis-toi, moi je suis plus petit que lui. Si tu es meilleur que lui, dis-toi que tu es plus coupable que lui. C'est-à-dire que par rapport aux qualités que tu as, on va te juger de façon beaucoup plus difficile. Troisième chose, pense au péché que tu as fait. Qui n'est pas bourré de péché ? Qui n'est pas bourré de péché ? Donc, faire une liste maintenant, et pour la journée, une journée, non, t'en as... De quoi tu te vantes ? Quoi tu te vantes ? Qui es-tu ? Un peu. Si les gens savaient ce qui te passe par la tête toute la journée, les pensées interdites sur les femmes, la jalousie, la concurrence, la haine des gens, l'orgueil que tu as toi-même, hein, on lisait, d'accord, tes pensées, alors on dirait qu'il est nul le type. La seule chose que peut-être on peut se consoler, c'est qu'on pense que l'autre est aussi nul que nous, d'accord ? Ça, c'est aussi l'orgueil qui nous fait dire.
C'est un véritable péché, les pensées.
Quoi ?
Je sais pas,
on aurait pensé... Et les pensées perdues. Ouais. Ouais. Horreur de Dieu, tout celui qui est orgueilleux.
Et tout ce qui est pensé, ça ne fait pas partie du libre arbitre, moi je pense.
Si on s'installe là-dedans, si ça vient, on fait partir, ça va. Si on s'installe dans la pensée, ça va pas.
C'est-à-dire qu'on prend, on accepte la pensée. On...
Dieu, il est super, super puissant, hein, besoin de le dire. Super puissant. Il n'y a rien qui peut faire quelque chose contre Dieu. Qui peut? Dieu dit, l'orgueilleux, lui et moi, on ne peut pas habiter dans le même monde. L'orgueilleux, c'est parce qu'il repousse les pieds de la Shrina, la présence divine. Il repousse. Dieu dit, je ne peux pas vivre avec lui dans le même monde. T'imagines? Il repousse Dieu. Dieu dit, oh, c'est moi, non, non, je te repousse. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a moi. Moi, moi et moi et moi. Bon, pour ta question, le commentaire sur l'orgueil, c'est un programme de plusieurs vies. Mais il y a des livres, il y a des livres sur l'humilité.
Chod Sadikim, il parle vraiment bien de ça, je crois.
Très bien. Il dit le Moussa, il faut lire là-dessus. Mais c'est Echarim, Chod Sadikim. Il y a un livre que je recommande, il est qu'en hébreu. J'ai demandé à quelqu'un de traduire en français, peut-être il va le faire. J'ai demandé au directeur de Torah Box de faire toute la traduction des livres de Rav Tobolsky. Je ne sais pas s'il va le faire, il m'a dit que c'est une bonne idée. Je n'ai pas suivi l'affaire. Rav Tobolsky, il a fait une série de livres en hébreu, ça va être Tikkun Amidot, réparation des mauvaises mœurs, des mauvais traits de caractère. Et dans chaque livre, il amène peut-être 100, entre 100 et 300 pages de moussar spécifique sur une mida, avec des histoires de tzadikim, des paroles de Chazal, c'est extraordinaire, des très bons livres. T'as sur l'humilité, t'as sur ne pas mentir, t'as sur ne pas voler, d'accord, t'as sur ne pas se mettre en colère, t'as sur respecter son prochain.
L'avarice.
Ça, je connais pas, je crois pas qu'il y a sur l'avarice. Bon, en deux mots, il y a du travail. Le seul travail, bon moins travaillé, c'est le moussard. Mais je vais maintenant quelques petits trucs qui sont écrits dans les livres, d'accord. Donc nos péchés. Ce qu'on fait, c'est pas grâce à nous, on fait ce qu'on doit faire à l'éveil, et si seulement on va pas être jugé qu'on n'a pas fait, mais on n'est pas arrivé à ce qu'on aurait dû faire. Oui.
On dit que, je sais pas où est-ce que j'ai lu ça, mais je l'ai lu en tout cas, qu'on a tous le potentiel d'être Talmid Chacham. Donc ça veut dire que, elle vous dit que d'accord, on ne va pas avoir d'orgueil. Moi, j'aimerais, avec ce raisonnement-là, je pourrais dire la merde. Au contraire, vu qu'on a tous le potentiel d'être Talmid Chacham, quelqu'un qui est plus fort que l'autre, elle va au contraire, elle peut se vanter. C'est vrai, d'accord, que c'est la grâce à Kadosh Baruch Hu que j'ai tout ce secret, cette semaine-là et tout. Mais j'ai travaillé, toi, t'as pas travaillé, donc je peux me vanter de ce que j'ai fait.
Le seul point sur lequel on pourrait, soi-disant, entre guillemets, se vanter, c'est dire que c'est vrai que Dieu m'a donné peut-être des dons, etc., mais j'aurais pu ne rien faire. Et j'ai quand même travaillé pour ça. J'ai dit, avant que j'ai parlé, j'ai dit rapidement, oui, c'est vrai qu'on a travaillé. J'ai dit, c'est vrai qu'on a travaillé. Mais, j'ai dit, d'accord. Alors, c'est vrai que pour le travail qu'on a fait, les efforts qu'on a fournis, sur ça, il y a un mérite. Mais, il ne faut pas se prendre non plus pour ce qu'on n'est pas. C'est vrai, tu as travaillé pour la souffrance que tu as eue, les efforts, tu auras du mérite. Mais ne commence pas à te prendre pour quelqu'un de plus grand. Parce qu'après tout, celui qui a fait les efforts aussi, il a été créé. D'accord ? Il y avait un type qui s'appelait, comment il s'appelait ? Geppetto. Tu connais ? Geppetto. Il a créé une marionnette qui s'appelait Pinocchio. Maintenant, il a créé un Pinocchio. Donne-moi le nom d'un grand sportif. Hein. Moi, je ne connais pas, ça fait 40 ans que j'ai quitté le monde du sport. Hein.
Usain Bolt.
D'accord, quel nom? D'accord, Usain Bolt, ok. Alors, Usain Bolt, d'accord. Maintenant, Geppetto, il crée Pinocchio Usain Bolt. D'accord. Et Pinocchio, il court Usain Bolt, ouais, il est premier. Hein? Geppetto dit, mon cher ami, de quoi tu te vantes? C'est moi qui t'ai créé. De A à Z. Oui, mais j'ai bossé. Ok, mais qui t'a mis dans la tête maintenant, la petite neurone qui te fait bosser? Qui te dit, hein? C'est moi aussi? Et puis, d'un coup, il va comme ça, c'est moi. Geppetto lui dit, calme-toi. Exactement ça. Le grand piège. C'est ça la grandeur des grands d'Israël. On leur fait un kavod monstre. Et eux savaient faire de zéro. De même zéro. Il y a un piège plus grand. Il y a deux sortes de grands. Il y a des grands qui se cachent. Baba Meir, fils de Baba Salé. Il le voit. Moi, je ne suis rien, moi. Rien. Il était énorme. Mais il se cachait. Maintenant, il y a des grands qui doivent diriger le peuple. Pour diriger, il faut prendre le rôle de dirigeant. Un dirigeant, on lui doit du kavod. On doit lui faire de l'honneur. Il doit être respecté. Il doit rouler dans une grande voiture, une belle voiture, avoir une belle maison. C'est un roi. Mais à l'intérieur, il doit être moins que rien à ses yeux. C'est beaucoup plus dur.
Qui est le dirigeant du peuple d'Israël ?
Aujourd'hui, le grand dirigeant, Rav Shteinman, on peut dire, en gros. Rav Shteinman, il habite dans une mansarde. Mais t'as vu, quand on le prend en voiture, dans quelle voiture on le prend ? Une belle voiture.
Mais par exemple, les...
Pourquoi ? Kvoda Torah ? Kvoda Torah ? Le Rav Shach, quand on allait lui acheter un chapeau, alors il allait avec son chapeau, acheter le chapeau, il demandait combien ça coûte ? Ah, mais c'est beaucoup trop cher. Il n'achetait pas. Alors, il part derrière, comme ça, tac, et on lui donne un chapeau bien. Sinon, il aurait été avec un chiffon sur la tête, un truc complètement d'accord, il n'a rien à faire. Mais Kvoda Torah ! Il y avait un grand Admor de Rosin, il s'appelait, qui marchait avec des chaussures, avec des plaquettes d'or sur les chaussures. Kvoda Torah, c'était un Admor. Quand il marchait dans la neige, on voyait des traces de sang. Sous les chaussures, il n'y avait pas de semelles. Il marchait pieds nus dans la neige. Je montre Kavod, mais dedans, je ne fais rien. Moshe Rabbeinu, le grand Israël, il dit Nachnouma, qu'est-ce que nous sommes ? Qu'est-ce que nous sommes ? Qu'est-ce que je suis ? Et moi, qu'est-ce que je suis ? Je peux dire je suis. Tout ce que je suis, Dieu m'a créé. Quel honneur nous revient ? Rien. Si on met ça dans la tête, à bon moment, le Messie Charim dit, il y a une image que si on s'imagine bien, on n'aura plus jamais d'orgueil toute sa vie. Il dit, imagine quand tu vas rentrer devant le tribunal céleste après ta mort, devant Hachem, et les myriades d'anges qui sont complètement parfaits, la pureté la plus pure qu'il puisse y avoir, gigantesque de pureté, de grandeur, de perfection. Et tu vas rentrer, tu vas dire moi je, tu pues. Même si tu es le grand sadique le plus grand par rapport à la condition humaine, par rapport à Dieu, à la perfection, c'est rien de rien. Après, on va faire la liste de tes péchés. Quelle honte ! Quelle honte ! Tu penses, il a dit, si tu te fais une image claire de ça, plus jamais tu auras de l'orgueil. Bon, il faut penser qu'on n'arrive pas à avoir des bonnes images suffisamment claires de cela.
Si on dessine
une pensée de... Ouais, vas-y, fais-le, fais tout ce que tu veux. Fais tout ce que tu peux pour arriver. Je veux dire, c'est quoi le vrai examen ? Quand quelqu'un te marche sur le pied, tu dis, excusez-moi, il y a mon pied dessous. Ouais, j'ai bien vu. Non mais oh, il te fait comme ça. Alors, t'es pas obligé de laisser le pied dessous, tu peux l'enlever. Tu restes calme, rien t'est arrivé. C'est pas ni ton niveau, ni mon niveau. Quand on nous fait du mal, quelqu'un, son ego vient en face de moi et écrase mon ego résiste. Ça veut dire que t'as encore de l'ego. Alors, je ne dis pas qu'il faut laisser écraser. La Torah m'ordonne de ne pas me laisser écraser. La Torah m'ordonne. Moi, Baruch Adonai, l'homme va amener.